L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Spoutnik Afrique décrypte l'actualité africaine et internationale et donne la parole à des spécialistes de renom. Nos émissions, qui sont diffusées tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 19h, s'efforcent de vous offrir une vision alternative à celle portée par les médias mainstream. Pour cette première édition de l'Afrique en marche sur les ondes de Maliba FM, je vous propose d'analyser de près les relations israélo-africaines. Pour rappel, l'Union africaine a suspendu le statut d'observateur dont jouissait Israël au sein de l'institution. Mes invités sont Zoumana Seif Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit, et Ivan Louchkareff, chercheur russe. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Afrique en marche présentée par le média Spoutnik Afrique. On commence. Lors du sommet annuel de l'Union africaine au mois de février, une diplomate d'Israël a été escortée hors de l'Assemblée de l'Union par des agents de sécurité. Il s'agissait de Sharon Barley, directrice générale adjointe pour l'Afrique au ministère israélien des Affaires étrangères. Sans tarder, Tel Aviv a accusé l'Iran, un ennemi juré de l'État hébreu, d'avoir orchestré cette expulsion avec l'aide de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. En réponse à ces accusations, un responsable de l'Union africaine a déclaré que la fonctionnaire israélienne n'avait pas été invitée personnellement. Seul l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union africaine est autorisé à assister à la réunion, l'invitation étant non transférable. Nous avons essayé de décortiquer les raisons de cet incident avec Ivan Louchkareff, chercheur russe et spécialiste du continent africain.
L'octroi du statut d'observateur à Israël au sein de l'Union africaine en 2021 a suscité une énorme controverse. À l'époque, la décision avait été prise par le président de la Commission africaine, Moussa Fakir, pratiquement seul. Lors du sommet de 2023, qui a mis l'accent sur la nécessité d'une unité du continent face aux défis futurs et présents, on a jugé plus approprié de ne pas diviser l'organisation sur cette question, qui n'est pas la plus importante pour l'Afrique, et de formuler une sorte de position unifiée. En l'occurrence, il s'agissait simplement de reporter pour l'instant le différend sur le statut d'Israël. Mais en même temps, faire un geste aussi symbolique que l'expulsion de la délégation israélienne. En d'autres termes, la logique ici est de supprimer, pour le moment du moins, l'objet du différend, à savoir le statut d'Israël en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. Il y a deux raisons à ce comportement des États africains. La première est que pour de nombreux États africains, la situation actuelle en Palestine est toujours inacceptable. Au lieu des deux États envisagés par la résolution des Nations Unies, un État arabe et un État israélien, il n'y en a qu'un seul. L'État arabe en Palestine n'a pas encore été pleinement formé. Malgré cela, de nombreux États africains ont reconnu la Palestine comme un État indépendant et ont maintenu des liens diplomatiques, culturels et autres avec elle. Le deuxième point important concernant Israël est le suivant. Je ne suis pas prêt à partager entièrement cette évaluation, mais de nombreux pays africains peuvent avoir le sentiment que la situation des Palestiniens ressemble beaucoup à leur propre expérience historique. D'autres ethnies, d'autres États sont venus en Afrique et ont imposé leur jeu, ont dicté leurs règles de conduite, ont discriminé les Africains. De nombreux intellectuels et hommes politiques africains constatent la même chose aujourd'hui en Palestine, où la vie des Arabes est largement régie par Israël, y compris à l'intérieur ou aux frontières de l'autorité palestinienne. Séparément, je voudrais mentionner l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud avait ce qu'on appelle des Bantoustans, où la population noire a été réinstallée. Ces Bantoustans ont été déclarés États indépendants, mais ils dépendaient en fait de l'Afrique du Sud, qui discriminait leurs habitants en tant que citoyens étrangers. Les Sud-Africains voient quelque chose de similaire en Palestine aujourd'hui. Les Palestiniens n'y sont pas vraiment des citoyens d'Israël. Ils vivent dans une sorte d'enclave et jouissent de beaucoup moins de droits que les Israéliens. C'est en tout cas ainsi que la situation est perçue en Afrique. Il en va de même pour l'Algérie, où les descendants francophones des colonisateurs ont également exercé une forte discrimination à l'encontre de la population locale, l'empêchant de se développer et d'obtenir une éducation correcte, un travail, etc. Le motif de l'émergence d'Israël sur le continent africain est assez simple. Depuis sa création, Israël a été entouré d'États largement inamicaux. Ainsi, il a traditionnellement cherché des alliés derrière les États arabes. L'Éthiopie était l'un d'entre eux jusqu'en 1974, à l'arrière de l'Égypte, l'un des principaux adversaires militaires d'Israël. Aujourd'hui, Israël tourne résolument son attention vers l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya et l'Ouganda. Il augmente actuellement ses exportations vers les pays d'Afrique de l'Est et tente d'établir des échanges commerciaux et des liens d'investissement. Bien sûr, par rapport aux pays du Golfe, cet effort n'est pas très important, mais il modifie progressivement l'équilibre du continent en faveur d'Israël. Quant aux accusations de lien avec l'Iran formulées par les initiateurs de l'action anti-israélienne, il s'agit d'une accusation assez standard pour la rhétorique d'Israël. En fait, bien sûr, l'Afrique du Sud n'a pas de lien particulièrement étroit avec l'Iran. On peut dire la même chose de l'Algérie, c'est un État très laïque qui se méfie de toute manifestation de fondamentalisme musulman. Toutefois, certains pays africains entretiennent des liens étroits avec l'Iran. Ils sont situés principalement en Afrique de l'Ouest. On parle généralement du Sénégal et, dans un sens, de la Gambie. Mais comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas du tout de l'Algérie ou de l'Afrique du Sud.
Но, как вы видите, это совершенно не Алжир и не ЮАР.
C'était Ivan Loshkarev, chercheur russe, qui a parlé au micro de Sputnik Afrique des relations entre Israël et l'Afrique. En fait, dans les années 1960, ces relations étaient chaleureuses. Mais en 1973, tous les pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, ont rompu leurs liens diplomatiques avec l'État hébreu en solidarité avec l'Égypte. À l'époque, une partie du territoire égyptien, le Sinaï, était occupée par l'armée israélienne. Le retour d'Israël sur le continent ne date que de quelques années. Il a été marqué par la tournée du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Afrique en 2016 et sa participation en juin 2017 au sommet de la CEDEAO. En 2021, après des années d'efforts diplomatiques, Israël a réussi à obtenir le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Mais comme des membres puissants, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, ont vigoureusement refusé cette décision, l'Union a fini par former un comité pour traiter du statut de l'État hébreu. Je vous invite à écouter notre entretien avec Zoumana Seif Kone sur les raisons de ce revers diplomatique d'Israël. Zoumana Seif Kone est directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Zoumana Seif Kone, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Tout le plaisir est pour moi, monsieur Kamal. Bonjour à vous.
Merci. Donc, ma première question... Dans ce contexte-là de l'expulsion de la représentante israélienne au sommet de l'UA, et alors que Israël dispose aujourd'hui de relations diplomatiques avec une quarantaine de pays africains, y compris une quinzaine d'ambassades, pourquoi cette expulsion et qui l'a provoquée?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette interview. Comme vous le savez, Monsieur Kamal, en fait, c'est un incident diplomatique parce que l'Israël est dans une stratégie de repositionnement diplomatique. Donc l'Israël, dans sa stratégie, avait entamé des pourparlers pour être membre observateur de l'Union africaine. Donc les pourparlers sont en cours, mais il y a tous les pays africains ne sont pas d'accord, surtout les puissances africaines comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, et voire un peu plus l'Éthiopie. Donc, il y a quelques pays qui sont un peu réticents par rapport à ça. Je pense que c'est ce qui a créé ça, mais c'est un incident diplomatique qui est vraiment à déplorer. Comme vous le savez, au-delà de la diplomatie, l'Afrique est une terre d'accueil et d'hospitalité. Donc, malgré les problèmes et les divergences, ça devrait se gérer. Et comme vous le savez aussi, le vrai souci, ce n'est pas seulement les pays africains, c'est les alliances autour de cet retour. Parce que si vous voyez les pays africains aujourd'hui, chacun est dans ces alliances dynamiques. avec d'autres pays occidentaux et voir les États-Unis. Donc, on ne voit pas l'Israël comme Israël en tant que tel qui veut venir apporter son expertise. Comme vous le savez, c'est une puissance de renseignement au niveau des services de renseignement. L'Israël, c'est un pays qui est extrêmement fort et ils veulent apporter leur expertise auprès des pays africains. Et je pense que certains pays aujourd'hui, plus d'une quarantaine, sont en train de collaborer. Et leur collaboration la plus récente est avec le Maroc. Comme tout le monde l'a vu, ils ont normalisé leur relation avec le Maroc. Ils ont, les deux gouvernements ont même entamé des visites. Donc cela porte à croire que, et tout le monde est unanime que, si vous voyez aussi que le Maroc est en train de pacifier sa relation avec l'Israël, c'est en partie à cause des États-Unis, parce que vu le problème du Sahara, le Maroc est obligé de chercher des alliances pour se renforcer. Et dans cette alliance, je pense que le Maroc a eu un appui de bois, qui est des États-Unis, et pas normalement, parce que les États-Unis aussi ont posé des conditions, c'est-à-dire la normalisation des relations aussi avec l'Israël. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale, d'une stratégie géopolitique globale de tous les pays. Donc, c'était dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est de faire mal à l'Israël, de montrer que leur politique de pouvoir se rapprocher des pays africains a montré ses limites. Mais moi, je pense qu'ils ont été aussi un peu précis. Parce que si vous êtes en pourparlers, vous avez demandé à être membre observateur, même si ça a été accordé avec des remous. Et vous savez aussi que les instances de l'Union africaine, ce n'est pas seulement les réunions normales, c'est-à-dire les conseils, les réunions extraordinaires, qui décide souvent. Il y a aussi le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui avait tout le temps été présidé par l'Algérie. Donc, il y a aussi son mot à dire par rapport à ce genre de décisions. Donc, c'est vraiment un incident déplorable. Et il va falloir que l'Israël tire les leçons et continue sa politique. Je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas lui faire du cadeau. Mais lui, dans sa stratégie aussi, il a une stratégie Afrique. Il compte aussi mettre en œuvre.
D'accord. Et quelle est votre analyse quant aux allégations avancées par l'État hébreu accusant l'Algérie et l'Afrique du Sud d'être sous contrôle de l'Iran et qui les a poussés justement à expulser leurs représentantes du sommet de l'UA? Et tout en rappelant bien sûr que les responsables de l'UA avaient dit que la personne en question n'était pas invitée, que c'était l'ambassadeur d'Israël qui a été à l'UA qui a été invité et que son invitation n'était pas transférable à une autre personne. Alors cette histoire-là de l'Iran, qu'est-ce que vous en pensez?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Assemblée générale de l'Union africaine, c'est un cadre où tous les pays africains, les représentants de tous les pays africains se retrouvent pour parler des questions d'intérêt général de l'Afrique. Et comme ils l'ont si bien précisé, Israël est un membre observateur aujourd'hui. Ils ont été invités à ce titre. Mais le problème se situe où c'est la personne qui est partie représenter. Et quand on dit qu'il y a la main de l'Iran, et qui, à travers l'Afrique du Sud et à travers l'Algérie, qui ont pesé de tous leurs poids pour chasser les diplomates. On ne peut pas, c'est des affirmations qu'il va falloir voir dans les alliances. C'est des jeux d'alliance. Parce que l'Iran ne siège pas au Conseil, à l'Assemblée générale. Donc l'Iran n'a pas les moyens de chasser, mais l'Iran peut se mettre en alliance avec ses partenaires stratégiques au niveau de l'Afrique pour essayer de diminuer l'Israël. Et l'Israël aussi, dans sa stratégie, devrait comprendre qu'il n'y a pas de cadeau dans ce milieu. Il n'y a pas d'amitié. Donc chacun est dans une stratégie de positionnement à travers ses alliés les plus fidèles. Et bon, je pense qu'ils vont tirer les leçons de tout ça. Comme vous savez aussi, l'Iran aujourd'hui est un partenaire très stratégique de plusieurs pays africains. L'Iran travaille main à main avec plusieurs pays africains, comme nos amis de la Russie aussi, qui sont vraiment des retours sur le continent africain. Qu'il va falloir maintenant que les Occidentaux, les Américains, voire les Israéliens intègrent ça maintenant dans leurs analyses, dans leur prise de position, partout dans leurs faits et gestes, dans la diplomatie internationale, qu'il y a d'autres puissances et d'autres pays qui sont des retours sur le continent africain. Donc, dire que l'Iran a puisé de son poids pour le faire, personne ne peut dire le contraire parce que tout le monde connaît les relations tant difficiles entre l'Iran et l'Israël. Donc, ces difficultés dans les relations peuvent pousser aussi les pays à agir à travers leurs réseaux au niveau africain.
Mais là, il y a le ministre, enfin le porte-parole du président du Sud-Africain à qui on avait posé la question.
sur cette question-là et avec ironie, il a répondu ben, nous attendons les preuves que l'État hébreu doit étayer ses affirmations parce que, selon lui, ce sont des choses qui ont été dites, mais sans apporter la moindre preuve matérielle sur ça. Et que, est-ce que vraiment l'Afrique du Sud, qui est le poids lourd numéro un de l'Union africaine et l'Algérie derrière elle, ont besoin d'être soudoyés ou influencés par l'Iran pour prendre ce genre de décision?
Comme vous le savez, M. Kamal, nos amis sud-africains sont dans leurs droits. Et c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant. Et ils doivent décider d'eux-mêmes de ce qui est bien dans leur diplomatie et de ce qu'ils doivent poser comme action. Donc, nos amis sud-africains ne vont jamais reconnaître à devant qui que ce soit, qu'il y a X ou Y main qui est derrière surtout la main de l'Iran. En tant que pays indépendant, pays souverain, ils peuvent décider d'eux-mêmes s'ils pensent que l'Israël, la personne qui est représentée, l'Israël n'est pas la personne adéquate, ils peuvent demander à ce que la personne quitte la salle. Si, personnellement, je pense que si l'Israël aussi avait respecté les protocoles, on n'allait pas arriver là.
D'accord. Et il y a quand même un précédent à cette question-là, parce que le Maroc, ça fait 2 ans à peu près, a décidé de rompre ses liens avec l'Iran en 2018, après l'avoir accusé d'armer, de financer et d'entraîner le Front Polisario, chose que via par le biais du Hezbollah, donc du mouvement chiite de résistance libanais, le Hezbollah. Alors que, bien sûr, le Front Polisario et l'Algérie et l'Iran ont démenti ça. Et le Maroc, à ce jour, n'a pas apporté la moindre preuve matérielle que cela c'est effectivement passé. Et alors que les relations ont déjà été suspendues entre les deux pays en 2009 et en 2014, et continue de dénoncer l'influence de Téhéran dans la région, notamment par le biais de l'ambassade iranienne à Alger, à Tunis, comme je l'ai déjà dit. Et en octobre 2022, le chef de la diplomatie marocaine a réitéré encore ses accusations, démenties aussitôt par l'Iran. Alors, qu'en est-il réellement? Le Maroc a-t-il présenté des preuves tangibles prouvant ses accusations? Et pourquoi l'Iran est-il pointé du doigt dans cette affaire?
Comprenez que M. Kamal, c'est un jeu d'alliance et un jeu géopolitique. Tout le monde veut étendre son influence. Aujourd'hui, la ligne rouge pour le Maroc, c'est le Front Polisario. Et le Maroc est en train de tout mettre en œuvre pour qu'aucun pays ne puisse reconnaître le Sahara. Et ça, c'est tout à fait leur droit et leur stratégie diplomatique à travers M. Nasser Bourita est orientée vers ça. Donc, ils savent aussi que l'Iran ne va pas intervenir directement sur le terrain. L'Iran peut passer par le mouvement Hezbollah de Hassan Nasrallah pour pouvoir apporter leur poids dans la zone et donner un nouveau souffle au Front Polisario. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de se repositionner politiquement et géographiquement.
Mais il n'y a pas de preuves, justement. Et il n'y a aucune preuve qui a été avancée sur ces allégations, parce que c'est des allégations graves. C'est des accusations graves, mais il n'y a pas eu de preuves matérielles.
Ce que vous devrez comprendre, on n'agit pas en tant que pays. Si vous comprenez l'explication de nos amis du Maroc, ils n'ont pas dit que l'Iran est intervenu directement. Ils disent que l'Iran, à travers les Hezbollah,
oui.
Vous voyez, donc les pays, à un certain moment, n'interviennent pas. Les pays utilisent d'autres formes d'intervention à travers leurs alliés stratégiques. Tout le monde connaît aujourd'hui les relations extrêmement difficiles entre le Maroc et l'Algérie.
Mmh.
Et tout le monde sait aussi que l'Algérie est un allié de l'Iran. Donc tout ça, c'est lié. Donc maintenant, ce que moi j'aimerais juste apporter comme éclaircissement, dans le concert des nations, c'est aujourd'hui nous sommes à un tournant où tous les pays veulent se positionner géographiquement et stratégiquement. Et chacun est prêt maintenant à faire des erreurs, à aller au-delà de ses frontières pour étendre son influence. Et c'est ça aujourd'hui que nous vivons en Afrique et de partout dans le monde. Vous voyez un peu. Donc, ces jeux d'alliance, ces jeux de corrélation, ces dynamiques locales, ces dynamiques sous-régionales sont tout à fait normales pour que les pays puissent arriver à leurs objectifs.
Donc, si j'ai bien compris, donc, vous êtes en train d'expliquer que les pays peuvent utiliser Mais vous n'êtes pas peuvent user de plusieurs manières pour justement se repositionner sur le plan géopolitique et géostratégique, mais vous, est-ce que vous adhérez à la, mais pour vous, est-ce que il y a cette éventualité de l'intervention de l'Iran, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Je n'ai pas bien saisi.
Personnellement, je ne pourrais pas apporter les preuves.
Ouais.
Personnellement, je ne pourrais
voilà.
pas apporter les preuves.
C'est ça.
Je m'en tiens au communiqué des différents pays.
Mm-hmm.
Ce que l'Iran a dit, je m'en tiens à ça. Ce que le Maroc aussi a expliqué, je m'en tiens à ça. Parce que c'est très difficile. Nous sommes des chercheurs. Nous devrons aller voir les réalités et recouper les informations, recouper les données et les statistiques et voir faire la corrélation entre les informations pour voir réellement qu'est-ce qui est vrai. Mais dans tout État sérieux n'est pas capable de sortir pour apporter des allégations contre un État souverain. C'est compliqué. Donc si vous voyez qu'il y a, des affirmations, il y a des informations qui sortent, c'est qu'il y a eu quelque chose. Mais aller jusqu'à à confirmer ces informations, ça c'est une autre chose.
D'accord. Donc, autrement dit, dans ce bas monde, tout est possible. Mais comme vous parlez de statistiques, donc... C'est une affaire de probabilité. Est-ce qu'il y a une probabilité élevée que ce genre de choses se sont arrivées ou non? Mais bien sûr que dans le jeu de la géopolitique et de la géostratégie, tout est possible, mais est-ce que la probabilité est grande ou petite? Bien, alors passons à la dernière question. Et c'est une question de principe. N'étant pas situé géographiquement en Afrique, pour quelles raisons les pays africains membres de l'Union africaine, de l'UA, devraient accorder ce statut à Israël? Et la décision de lui refuser ce statut d'observateur est-elle justifiée à votre avis? Et a-t-elle été prise démocratiquement par tous les membres de l'UA?
Bon, je prends juste l'exemple sur le Maroc. Vu que le Maroc est sur le continent africain, le Maroc demande aussi à être membre observateur de la CEDEAO depuis quelques années.
Pour rappel,
le Maroc est membre observateur de la CEDEAO depuis 2005. Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Royaume avait déposé une demande d'adhésion à cette communauté économique. Selon les experts, cela a marqué un changement assez radical dans la politique du Maroc, et une réorientation de ses priorités stratégiques vers l'Afrique. Lors du 51e sommet de la CEDEAO, l'organisation a donné son accord de principe. Mais au sommet suivant, l'adhésion marocaine a été soumise aux négociations et reportée. En plus de la position de Rabat sur le Sahara occidental, les inquiétudes des membres de la CEDEAO sont notamment liées au fait qu'il s'agit d'une participation potentielle d'une puissance économique importante à une zone de libre-échange. Et on ne sait pas quel effet cela aura sur les autres économies.
Donc c'est pour vous amener à comprendre que l'Israël, dans sa politique, a demandé à être membre observateur. Bien vrai qu'ils savent qu'ils ne sont pas du continent africain, et à être membre observateur, c'est pour étendre leur influence. Et avant même de demander ça, vous allez voir que l'Israël est en train d'aider, a déjà fait beaucoup de lobbying et beaucoup de démarches auprès des pays africains pour se positionner. Parce qu'eux, ils voient leur intérêt. Leur intérêt diplomatique et intérêt politique dans ces rapprochements avec les pays africains. Et ils pensent que c'est la meilleure façon d'être plus proche, d'être plus efficace, c'est de siéger avec eux en tant que membre observateur, parce qu'ils n'ont pas de droit de vote, ils n'ont pas de droit de décision. Donc ils veulent juste être là et entendre ce qui est en train de se dire et à comprendre comment les choses fonctionnent dans un second temps. Mais c'est aux pays africains d'apprécier. C'est aux pays africains de comprendre les vrais enjeux et de voir dans quelle mesure, s'ils collaborent avec Israël, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients à court, moyen et long terme. Et quand vous parlez d'Assemblée générale, ce n'est pas la voix d'un seul pays qui compte, mais c'est la majorité. Donc cette décision est en discussion, ça fait plus de 3 voire 4 ans que c'est en gestation. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a des lourdeurs administratives et des lourdeurs diplomatiques. Parce que chaque fois, on renvoie la question à une autre session ou on renvoie la question auprès du Conseil de sécurité de l'Union africaine qui est présidé chaque fois par l'Algérie. Vous voyez un peu la complexité. Et vu les relations entre Israël et l'Algérie, ça risque d'être extrêmement compliqué que les choses puissent se passer comme l'Israël veut. Mais c'est dans la diplomatie. Ils peuvent continuer à faire des lourdeurs. Nairobi, ils peuvent continuer à se rapprocher de leurs alliés et ils peuvent demander même l'aide des Occidentaux et des Américains qui peuvent aussi influer sur leur réseau pour leur positionner. Parce que si vous voyez qu'ils veulent adhérer, peut-être qu'eux, ils voient leur intérêt. Maintenant, au retour, c'est aux pays africains de comprendre maintenant les vrais enjeux pour qu'elles veulent être avec nous, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Est-ce qu'être avec nous est une bonne chose? C'est aux pays africains aussi de réfléchir et de voir les contours de cette observation de l'Israël.
Un peu plus dans le fond, est-ce que vous pensez que c'est la situation au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pardon? C'est la question palestinienne qui a pesé justement sur la décision de l'UA. Oui, exactions que mène l'État hébreu contre les populations civiles palestiniennes, l'extension des colonies qui ont à maintes reprises été condamnées par le Conseil de sécurité, sauf celles qui ont été bloquées par les États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pesé sur cette décision?
En fait, c'est des informations que les pays africains intègrent. Quelle est la situation réelle d'Israël? Comment la situation évolue entre Israël et la Palestine? Quelle est la position des pays par rapport aussi à ces problèmes palestino-israéliens? Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et l'Israël pense que ça peut être un facteur de blocage. C'est pas à négliger. Mais je pense pas si c'est ça seulement. Je pense qu'il y a d'autres choses. Il y a le côté géographique, il y a le côté enjeu, il y a le côté politique. Et le côté politique, on peut intégrer le problème israélo-palestinien au niveau de la politique, du côté politique. Mais il y a d'autres aspects qui sont intégrés dans ces analyses. Ça ne se limite pas seulement à leurs relations avec la Palestine. Il y a d'autres informations qui doivent être intégrées. Comme ce que vous devrez comprendre, l'Israël aujourd'hui collabore avec beaucoup de pays africains, comme je l'ai mentionné, et surtout sur le plan de la sécurité et du renseignement.
Mm-hmm. C'est extrêmement important. Nous allons aborder cette question-là juste dans la seconde partie. Je vous laisse terminer quand même.
Voilà, donc ils ont beaucoup d'intérêt les uns envers les autres. C'est ce qui amène aussi les pays à changer de position. Mais moi, je pense que c'est tout à fait légitime qu'ils demandent à être membre observateur. Et c'est légitime aussi si les pays africains ne voient pas leur intérêt, de ne pas leur donner accès. C'est tout à fait normal. C'est un jeu politique, c'est un jeu de diplomatie, c'est un jeu d'enjeu géopolitique, stratégique aussi, qui est capital qu'il faut intégrer.
Mmh. Et est-ce que vous pensez que regardent par exemple les pays européens, à votre avis, cette tentative d'incursion d'Israël au sein de, pas en Afrique, mais je dirais parce que ça fait les relations d'Israël avec les pays africains, ça date de longtemps, mais l'Union africaine.
En fait, comme je vous ai dit, c'est un jeu d'alliance. Les alliés de l'Israël vont toujours voir ça d'un bon œil. Comme les pays qui ne sont pas aussi alliés à l'Israël pensent que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi tous ces pays, que ce soit les alliés, que ce soit ceux qui sont opposés à l'Israël, tous ces pays sont en train de jouer leur va-tout auprès de leurs alliés africains. Chacun tire les ficelles à son niveau. Pour que, si j'ai un allié africain, si je suis pas pour que l'Israël puisse étendre son influence sur le continent africain, je vais demander à mon allié de ne pas accepter, parce que je ne vois pas l'intérêt. Et si je vais lui montrer, ils intègrent l'Union africaine comme un membre observateur, voici ce que vous encourez. Mais s'il y a aussi les pays amis de l'Israël, eux aussi vont peser de tout leur poids auprès de leurs amis africains, leur dire que l'Israël c'est un bon pays, ils vont venir vous aider, ils vont vous apporter l'expertise nécessaire dans le cadre sécuritaire. Donc faites leur confiance, il faut les aider à intégrer. Vous savez, dans ce monde, c'est que des jeux d'alliance, des jeux d'acteurs et des jeux de pouvoir. Tout tourne autour de ces trois choses.
D'accord. Et à votre avis, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique et géostratégique, est-ce que ces relations-là sont appelées à se compliquer après cet incident à l'Union africaine, au sommet des chefs d'État de l'Union africaine, ou au contraire, on peut entrevoir une possibilité pour que Israël puisse arriver encore beaucoup plus dans ses relations avec les pays africains?
Bon, déjà, c'est déjà compliqué. Si vous voyez que le diplomate a été demandé de quitter la salle, c'est que la situation est compliquée. Mais ça, c'est la face que tout le monde voit. Mais selon les explications que l'Union africaine a données, ils n'ont pas demandé à l'Israël, au pays Israël, de ne pas rester dans la salle. Mais ils ont pensé que la personne qui a été accréditée, ce n'a pas été la bonne personne. Je pense que ça, cette brèche peut permettre que les négociations puissent continuer. Donc, on peut qualifier de ça comme une incompréhension au sein de l'organisation. Il y a eu une incompréhension. Et si l'Israël a une bonne politique diplomatique, ils doivent relativiser. Ils doivent vraiment relativiser. Ils doivent comprendre que si vous avez des objectifs, travaillez à atteindre vos objectifs. Ça, c'est des manquements, c'est des aléas, c'est des choses qui font partir. Parce que vous n'êtes pas du continent africain, vous voulez intégrer une nouvelle zone qui est extrêmement compliquée avec des jeux d'alliance très fortes. Il va falloir être très patient et continuer les négociations. C'est un incident à déplorer, mais je ne pense pas si ça va entraver le processus d'adhésion de l'Israël en tant que pays observateur. Je pense qu'ils vont continuer avec leur démarche.
Est-ce que comment les pays africains, justement, la majorité, voient ce problème-là de la question palestinienne dans leur relation bilatérale avec Israël?
Bon, vous savez, quand il y a occupation, quand on parle d'occupation d'un territoire, quand on parle de victimes, quand on parle de bombardement, donc chacun à son niveau, chaque fois qu'il y a l'escalade entre les deux pays, les pays africains sont vraiment solidaires. La majorité sont solidaires vis-à-vis des Palestiniens. D'abord, il y a les relations religieuses qui lient plusieurs pays, aux pays palestiniens dans un premier temps. Secondo, il y a le côté humanitaire qui lie aussi plusieurs pays aux pays palestiniens. Mais les Africains en général sont au milieu, sont équidistants. Par rapport à ces problèmes palestiniens et israéliens, israélo-palestiniens, ils sont équidistants. Parce que eux, dans leur posture, c'est de proposer des solutions à ce que la paix puisse revenir entre les deux pays. Mais s'ils deviennent des belligérants, ça serait extrêmement compliqué. C'est pourquoi ils peuvent faire des condamnations de principe, ils peuvent demander le retrait de l'Israël sur tel endroit. Mais à la fin, c'est des bons offices. Ils se positionnent en tant que pays de bons offices pour ramener la paix entre ces deux pays.
D'accord, donc ce n'est pas comme les pays arabes, enfin pas tous les pays arabes, parce qu'il y a certains qui ont quand même normalisé leurs relations, mais comme ceux qui refusent de normaliser, que c'est une question de principe, tant que les Palestiniens n'ont pas eu accès à leur droit de créer un État indépendant aux frontières de 67, avec Jérusalem Est comme capitale, il n'y a aucune possibilité de normaliser ou de tendre la main à l'État hébreu.
Effectivement, la position des pays arabes est radicale parce que c'est des enjeux plus religieux et des enjeux de relations amicales qui lient l'autorité palestinienne à ces pays-là. Et ils pensent qu'ils ne sont pas d'accord géostratégiquement et géopolitiquement. Ils pensent que géopolitiquement et géostratégiquement, et ils pensent que les Palestiniens sont des victimes. Donc, ça, c'est à l'appréciation de tous les pays. Tous les pays, dans ces problèmes, sont obligés de parler selon la ligne diplomatique de son président.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Mon invité est aujourd'hui Zoumana Saïf Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. À en croire l'interlocuteur de Radio Sputnik Afrique, l'expulsion de la diplomate israélienne du sommet africain ne signifie pas l'arrêt des discussions sur le statut d'observateur de l'État hébreu dans l'Union africaine. La raison en est que beaucoup de pays africains entretiennent des relations avec Israël, dont ils espèrent avoir une assistance au développement dans plusieurs domaines. Néanmoins, les accusations lancées par la diplomatie israélienne quant à l'implication de l'Iran dans cet incident via l'Algérie et l'Afrique du Sud n'ont pas été suivies de preuves tangibles les prouvant. Par ailleurs, tout en insistant sur le fait que les pays africains apportent un soutien indéfectible à la cause palestinienne, Zoumana Saïf Kone explique que beaucoup de ces États ne considèrent pas qu'il faille rompre avec Israël. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Zoumana Saïf Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Il est tout à fait évident que certains pays africains sont géographiquement stratégiques pour la sécurité d'Israël. En effet, ce dernier entretient une relation spéciale avec le Kenya et l'Éthiopie, qui sont respectivement des fenêtres ouvertes sur l'océan Indien et la mer Rouge, un lieu de passage commercial et sécuritaire stratégique. Ainsi, selon des experts, en Afrique, Israël aspire à gagner des débouchés commerciaux, à sécuriser l'accès à la mer Rouge, à obtenir le soutien des pays africains dans les grandes instances internationales dont l'ONU, et enfin à redorer son image. Parmi les domaines de compétences israéliens les plus prisés sur le continent figurent la sécurité, l'agriculture et surtout les nouvelles technologies, la high-tech et le numérique. Il y a des signes de projets à venir développés par Israël pour encourager des start-up à émerger en Afrique. Par ailleurs, le réchauffement des relations entre Israël et certains pays du G5 Sahel pourrait conduire la France à revoir sa stratégie quant à sa présence militaire dans cette région, selon des experts sécuritaires. Les perspectives de la coopération entre Israël et les pays africains seront le sujet de la deuxième partie de notre émission.
D'accord. Comme vous le savez, l'Israël mobilise assez de compétences que les pays africains en ont besoin. Je pense qu'ils sont en train d'expérimenter avec les Kenyans déjà et l'Éthiopie comme des partenaires très stratégiques dans le cadre de tout ce qui est sécurité, mais aussi dans le cadre de l'agriculture. Et quand on parle aujourd'hui de sécurité, vous savez, le problème sécuritaire aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont touchés directement par le problème sécuritaire, surtout la lutte, comme vous l'avez si bien souligné, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en général. Donc, c'est pourquoi l'Israël aussi a compris les enjeux actuels de la demande africaine et ils essaient de se positionner à travers leurs forces, déjà qui est l'agriculture, qui est aussi la sécurité. Mais au-delà de ça, ils vont explorer d'autres pistes, ils ne vont pas se limiter à ces deux choses. Ils vont explorer d'autres pistes, mais cette fois-ci, quand ils vont explorer d'autres pistes, ça serait ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, comme beaucoup de personnes parlent des mines, parlent d'autres choses. Ils seront maintenant dans des consortiums d'entreprises. Peut-être que vous allez voir une entreprise étrangère, mais le capital de cette entreprise est majoritairement israélienne. Mais sûrement, vous n'allez pas voir le nom de l'Israël en quoi que ce soit. Mais c'est comme ça qu'ils veulent procéder. Selon moi, mes analyses, ils vont faire avec leur domaine de compétences intrinsèques, qui est la sécurité et l'agriculture. Mais ils vont explorer d'autres domaines, comme le transfert de compétences en matière technologique, mais aussi dans le cadre de l'acquisition des mines d'or, qui sont, comme vous le savez...
Et le diamant aussi.
Voilà, et le diamant. Quand on parle de mines, les diamants, y compris. Et les sous-sols en général, quoi, les sous-sols, les ressources naturelles en général. Et ils vont essayer aussi de se positionner à travers d'autres entreprises et à travers des consortiums d'entreprises, pour ne pas être trop imposant auprès des pays africains. Comme vous le savez, la mentalité des Africains a beaucoup évolué durant ces 20 dernières années. Autrefois, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire tranquillement, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec la libéralisation de l'information. Les Africains ont beaucoup appris et ils veulent se servir de ça pour pouvoir poser les nouvelles bases de leur collaboration avec leurs partenaires stratégiques et leurs futurs partenaires. C'est ça aussi la complexité. Sinon, Israël aujourd'hui est en train vraiment de travailler à se positionner un peu partout en Afrique, jusqu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du G5 Sahel. Ils essaient de se rapprocher.
Ça, c'est la question, c'est la prochaine question. Juste pour approfondir un peu cette question de collaboration dans les hautes technologies, la formation, le numérique, Mais surtout l'agriculture, parce que l'Afrique actuellement souffre des retombées de la guerre ou de l'opération spéciale russe en Ukraine, sur le plan de la sécurité alimentaire et la sécheresse qui frappe des zones complètes en Afrique. Est-ce qu'il y a des exemples de coopération entre Israël et certains pays africains, dont justement l'agriculture en milieu aride, dans laquelle l'État hébreu, il a une compétence certaine?
Oui, je pense qu'il y a des exemples. Ils sont en alliance stratégique avec les Kenyans. Ils font beaucoup d'efforts sur les territoires kenyans pour pouvoir faire de l'agriculture semi-aride sur des conditions climatiques un peu difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien souligné, tous les pays africains cherchent à se positionner, cherchent à être une puissance agricole. Parce qu'on a compris que le vrai souci de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous importons 90% de notre consommation de l'étranger. Chose qui n'est pas normale.
90% de la consommation agricole des biens...
De la consommation locale de l'Afrique vient de l'extérieur. C'est ça la problématique. Je prends même l'exemple sur le Mali. Le Maroc fait beaucoup d'efforts dans le cadre de l'approvisionnement du marché malien en produits de... un produit frais, comme les fruits et les légumes. Donc ça, c'est juste une parenthèse. C'est pour vous montrer que jusqu'à présent, l'autosuffisance alimentaire n'est pas du tout assurée en Afrique. Et nous sommes obligés, vous l'avez si bien dit, avec l'intervention spéciale de la Russie en Ukraine, vous avez vu, il y a eu beaucoup de retombées. Cela démontre que notre importation est très élevée par rapport à notre production. Donc nous importons beaucoup dans nos pays, à travers nos partenaires d'Iran.
Mais le problème, est-ce que c'est parce que manque d'investissement ou c'est justement cet état de sécheresse, de stress hydrique et de changement climatique qui rend l'agriculture pour les Africains très difficile?
En fait, c'est
les trois choses à la fois.
C'est des facteurs connexes. Tout est lié. D'abord, il y a le manque d'investissement parce que nous-mêmes, Africains, on n'a pas compris les vrais enjeux de l'agriculture. L'agriculture est reléguée au troisième voire quatrième plan dans notre stratégie de développement. Alors que l'agriculture doit être notre première option de développement.
Absolument.
Qui peut nous faire comme... Si vous prenez le cas du Mali, le Mali a l'objet du Niger. L'objet du Niger, on peut aménager plus d'un million d'hectares cultivables et on peut produire tout au Mali. Le Mali peut s'autosuffire et le Mali peut être le grenier de l'Afrique de l'Ouest si c'est bien exploité. C'est pour vous montrer qu'il y a de la potentialité. Mais tous les facteurs que vous venez de citer, que ce soit les facteurs climatiques, que ce soit les facteurs de l'investissement, que ce soit les transferts de la technologie, on a des sérieux problèmes à ce niveau. C'est pourquoi nous importons beaucoup que nous les produisons. Et à chaque crise, nous sommes les premières victimes, même si ça ne se passe pas sur notre continent.
Pour rappel,
les exportations depuis la Russie font l'objet d'innombrables paquets de sanctions anti-russes. Outre cela, l'Occident ne respecte pas ses engagements quant à l'accord céréalier. Lancé en juillet 2022 et prolongé en novembre, ce texte est appelé à aider les pays nécessiteux, notamment africains. Depuis le tout début, Moscou a nombre de fois pointé son non-respect par les Occidentaux, ainsi que le blocage et le stockage de produits. Parallèlement à l'accord céréalier, un mémorandum a été signé entre la Russie et l'ONU pour mettre hors des sanctions les engrais russes. Pourtant, selon Moscou, ce document n'est pas non plus respecté. Le communiqué de la diplomatie russe indique que 47% du blé a été livré aux pays à revenus élevés, l'Union européenne ou le Royaume-Uni, tandis que les pays dans le besoin, la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, l'Afghanistan et Djibouti, n'ont reçu que 3%.
Et vous avez vu que nos amis russes étaient obligés de venir au secours de plusieurs pays africains pour leur fournir des blés. Pour leur donner du blé.
Le blé, les engrais.
Les engrais, vous voyez, parce que nous consommons plus. Et les engrais, on en a besoin pour notre agriculture locale aussi. Donc tout ça, quand il y a une petite crise quelque part, nous sommes directement impactés. Parce que nous n'anticipons pas, nous ne travaillons pas pour... qui crée les conditions de notre autosuffisance et de notre auto-indépendance alimentaire. Chose qu'on doit vraiment beaucoup travailler là-dessus.
D'accord.
C'est pourquoi l'Israël, aujourd'hui, quand ils font des propositions, ils font des offres, plusieurs pays sont preneurs. Parce que le besoin est là. Plusieurs pays sont preneurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité, parce que le besoin réel est là et exprimé.
D'accord.
C'est pourquoi ils sont preneurs.
Et alors, dans ce cas-là, justement, quel est votre avis, justement, sur la recommandation de la déclaration de l'Union africaine qui a d'appeler les pays africains à cesser toute collaboration, qu'elle soit scientifique, technologique ou avec l'État d'Israël, alors que les besoins sont...
Comme vous le savez, les communiqués, il y a toujours des collaborations formelles et informelles. Mm-hmm. Ça, il faut intégrer ça dans vos analyses. Mm-hmm. Ce qu'on dit plus haut et ce qui se fait plus bas ne sont pas les mêmes. Donc, l'Union africaine a pris une position, a donné une information que tous les pays africains doivent se conformer. Donc, vous allez voir que la réalité sur le terrain est tout autre. Parce que l'intérêt de l'Union africaine et les intérêts spécifiques de ces pays diffèrent. Et à un moment donné, chacun est obligé d'aller chercher des intérêts spécifiques pour le bien de son peuple. C'est pourquoi nos institutions ne fonctionnent pas. Si vous voyez qu'on a du mal à fonctionner, nos institutions africaines ont du mal à fonctionner parce que l'intérêt de l'institution ne converge pas avec l'intérêt des différents pays qui la composent. Ce qui crée énormément de problèmes. Et je pense qu'il va falloir réellement trouver des solutions à ces incompréhensions. Et si l'Afrique pouvait parler d'une même voix, ça pouvait être bien. Et ça pouvait nous renforcer sur l'échiquier international. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas.
D'accord. Bien, maintenant passons aux questions sécuritaires. Alors, le rétablissement est de plus en plus apparent des relations entre Israël et certains pays du G5 Sahel pourrait conduire la France à revoir sa stratégie quant à sa présence militaire, c'est ce qu'elle fait déjà depuis quelques mois, pour le redéploiement de l'opération Barkhane. Dans la région et probablement, selon certains analystes, en coopérant davantage avec les Israéliens pour contrer notamment l'influence grandissante des Russes, c'est ce qu'ils disent. Alors, qu'en pensez-vous? Et Israël, à votre avis, pourrait-il vraiment aider les Africains à combattre le terrorisme djihadiste? Alors qu'il y a pas mal d'accusations contre l'État hébreu, dont sa participation au terrorisme au Moyen-Orient, notamment contre la Syrie, durant toute la guerre qu'a connue ce pays.
Vous savez, c'est extrêmement compliqué la lutte contre le terrorisme. Et si vous voyez la réarticulation de l'armée française un peu au niveau des pays du G5 Sahel, qui a commencé par le Mali et le Burkina, pour se replier un peu sur la Côte d'Ivoire et le Niger, porte à croire que la lutte est farouche. Et dans cette lutte, il n'y a pas de cadeau. Donc si l'Israël veut se repositionner et venir combattre les terroristes, l'Israël doit comprendre que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Mmh. Et dans un premier temps, est-ce que les pays du G5 sont prêts aussi à s'allier avec l'Israël? Parce qu'ils ont expérimenté beaucoup de choses qui n'ont pas aussi marché. Ils se sont mis dans beaucoup d'alliances.
C'est-à-dire,
nous avons eu la force Barkhane, la force Serval, qui s'est transformé en force Barkhane. Et après, nous avons eu les G5 Sahel. Et après, nous avons eu les forces Takuba. Mm-hmm. Et il y a la mission multidimensionnelle aussi des Nations Unies qui est là pour la stabilisation. Donc, avec la présence de toutes ces forces, ils ne sont pas venus à bout de la menace terroriste. Et jusqu'à ce que le Mali était obligé de changer de partenaire pour s'orienter vers la Russie. Donc c'est pour vous amener à comprendre...
Mais justement, une question, comment ça se fait? Comment vous expliquez cet échec-là? Et comment la Russie arrive au Mali, ça fait pas longtemps depuis qu'elle coopère avec le Mali sur le dossier sécuritaire? Et le Premier ministre Choguel Maïga vient de déclarer que depuis que le pays collabore avec la Russie sur le plan sécuritaire, la peur a changé de camp. C'est-à-dire elle n'est plus du côté du Mali, mais du côté des mouvements terroristes.
Et puis la guerre même a changé de forme. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, pourquoi il y a la complexité autour de la lutte contre le terrorisme? Parce que ce n'est pas une lutte contre le terrorisme. C'est une lutte contre les enjeux financiers. C'est de l'argent qui sont dans cette zone-là, la zone du Sahel, mm-hmm. du Mali jusqu'au Soudan. Donc, si vous venez dans la posture de lutter contre des terroristes, vous n'allez jamais réussir. C'est de la criminalité organisée sous la bannière du terrorisme qui est dans cette zone-là. C'est extrêmement important. Il va falloir que nous évoluions dans l'analyse.
Mmh. Allez-y, on vous écoute.
C'est du narcotrafic, c'est de la drogue, c'est de la criminalité. C'est des milliards et des milliards de dollars qui sont en jeu dans ces zones-là.
Mmh.
C'est ce qui rend difficile la lutte contre le terrorisme. Au-delà de ça, il y a plusieurs groupes armés, que ce soit officiel ou non officiel. Beaucoup de personnes tiennent les armes. Aujourd'hui, la Libye est une poudrière depuis 2011 où tout peut se faire là-bas. On peut vous approvisionner partout si vous avez les moyens. Donc, c'est une zone sans foi ni loi où c'est seulement les intérêts financiers, les intérêts économiques qui comptent. Même si tu vois la course des grandes puissances vers le Sahel, ce n'est pas seulement pour protéger la population du Sahel, c'est pour protéger des intérêts stratégiques de leur pays à partir du Sahel.
Mmh.
Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est ces informations que les gens doivent maintenant intégrer. Qu'il faut quitter la forme classique de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est plus une forme classique. C'est des intérêts économiques qui sont là, que vous cherchez à détruire.
Mmh.
Et aussi, ils vont se défendre avec tous les moyens pour préserver leurs intérêts économiques. C'est pourquoi quand il y a eu des problèmes au nord du Mali, il y a eu plusieurs forces qui sont intervenues. Le problème s'est déplacé, le problème a quitté le nord pour venir au centre. Parce que ces mouvements sont en perpétuel, ces organisations sont en perpétuel mouvement. Une fois que c'est difficile dans une zone, ils se déplacent vers une autre zone. Toujours dans le cadre de leur criminalité organisée. C'est important.
Donc, dans ce cas-là, à votre avis, comment il faut faire pour combattre, quelles sont les méthodes qu'on devrait développer justement pour combattre cette criminalité transnationale et qui sévit dans la région, notamment du Sahel, et comment Israël peut aider dans cette nouvelle approche de la lutte contre la criminalité.
Ce que je conseille à nos amis israéliens, c'est de rester dans leur position de passation des technologies, de ne pas venir sur le terrain, essayer de se battre sur le terrain. C'est un terrain extrêmement compliqué et complexe. Ils peuvent se limiter à leurs renseignements et à passer les technologies sécuritaires pour que les pays eux-mêmes puissent. Parce qu'il y a aussi les enjeux climatiques, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Se battre sur un terrain normal et venir se battre dans le désert aussi, il faut s'adapter au climat. Et le climat est extrêmement rude là-bas. Il fait extrêmement chaud et les conditions sont extrêmement difficiles. Il faut intégrer tout ça. C'est pour vous ramener à comprendre si réellement on doit trouver une solution à ces problèmes de terrorisme. Moi, personnellement, selon mes analyses, la solution n'est pas seulement militaire. Il faut intégrer d'autres mécanismes pour arriver. Et il faut s'inspirer du modèle algérien et du modèle mauritanien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener la paix chez eux? C'est extrêmement important. Parce qu'ils ont vécu les mêmes problèmes que nous, les Maliens aujourd'hui, que les Burkinabés et que les Nigériens. C'était les mêmes réalités.
Mm-hmm.
C'était très difficile pour eux. Mais ils sont venus, ils se sont appuyés sur des mécanismes locaux, des résolutions de conflits. Et en plus de la suite de la position armée, ils ont alterné les dés pour aller à une solution. Et moi, ce qu'on doit s'inspirer, mais au lieu que nous restons dans notre position normale de lutte contre le terrorisme, il faut qu'on évolue aussi dans notre compréhension de la situation sur le terrain.
Ok, d'accord. Bon, une dernière question, c'est par rapport aux programmes qui sont offerts par le MICHAV. Le MACHAV, excusez-moi, c'est c'est l'agence d'aide au développement et de coopération internationale créée en 1958 par Golda Meir, alors qu'elle était ministre israélien des Affaires étrangères. C'est un mécanisme qui offre pas mal de, selon de certaines statistiques. Donc, il y a 40% de son avoir qui est consacré aux pays africains. En 2019, il y a 2000 personnes qui ont été formées, notamment dans l'agriculture et dans la création de start-up, les technologies, et ainsi de suite. Et durant les deux ans de Covid, pas mal de pas moins de 50 000 personnes ont suivi des cours via Internet. Alors, la question, faut-il s'en réjouir ou prendre garde à cette aide israélienne dans le domaine de la formation? Et in fine, les Africains n'y ont-ils pas besoin? Parce que si cette aide ne vient pas de leurs partenaires, qu'ils soient à l'intérieur de l'Afrique ou à l'extérieur, en Europe ou aux États-Unis, pourquoi pas ne pas la prendre comme ils la prennent actuellement chez les Chinois aussi? Et que faudrait-il faire justement pour faire avancer les choses dans ce domaine?
Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. Toutes les grandes puissances ou tous les pays qui aspirent à être des puissances ont créé des agences de développement. Ces agences de développement, comme vous le savez, ne sont pas juste là pour aider, mais ils sont là pour aider le pays à élargir son influence. Comme exemple, si vous prenez le cas de la France, ils ont AFD, Agence française de développement, et ainsi de suite, beaucoup de pays. Les États-Unis ont plusieurs programmes d'appui à la population.
C'est comme on dit, le soft power. Soft power un peu.
Comme le Danemark soutient beaucoup la population malienne et un peu le gouvernement. Donc, chaque pays est dans une politique. Mais ce qu'il faut voir derrière ces politiques, c'est rester influent dans la zone et élargir son réseau. Et toutes ces politiques aussi sont derrière et cachées des renseignements. Derrière ces financements, ils recueillent aussi des informations, ce qui est des informations capitales pour leur pays. Et ça va leur aider de peaufiner des stratégies par pays, des stratégies par zone régionale et tout. Donc, il ne faut pas qu'on s'en réjouisse. Il ne faut pas du tout s'en réjouir de l'aide ou de l'appui. Il faut s'en réjouir de ce que vous-même, vous pouvez apporter. Ce que vous, votre pays peut apporter. C'est extrêmement important. Sinon, les aides, il y a toujours des trucs qui sont cachés derrière. Des enjeux qu'on n'explique pas. Et par fini, le pays qui reçoit de l'aide n'est jamais gagnant. C'est pourquoi aujourd'hui le Mali parle de partenariat gagnant-gagnant.
Voilà. Et à votre avis, quels sont les secteurs où les pays africains pourraient collaborer justement dans des partenariats gagnant-gagnant?
Je pense qu'aujourd'hui, le Mali, les pays africains en général, si vous prenez 90% aujourd'hui des pays africains, sont dans les dynamiques de se renforcer militairement. La région n'est pas, notre continent n'est pas du tout stable ces 10 dernières années. C'est en perpétuelle évolution un peu partout. Si vous voyez la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, maintenant on est aux cornes de l'Afrique. On a quitté l'Afrique de l'Ouest, on est parti vers le corne de l'Afrique et on est revenu encore vers le golfe de la Guinée. Donc c'est pour vous dire, pas du tout stable. On peut du nord, on peut se retrouver au sud, on peut se retrouver au centre. Donc tous les pays aujourd'hui ont besoin de se renforcer militairement dans un premier temps. Tous les pays ont besoin aussi d'avoir un développement structuré dans le cadre de l'agriculture, un partenariat stratégique dans le cadre de l'agriculture et de l'éducation. Donc si vous me demandez de citer des secteurs clés, je vais citer 4 secteurs clés. Du côté militaire, côté de la santé, côté agriculture et j'avais cité tout à l'heure, côté agriculture, côté sécurité, côté militaire et du niveau de la santé. Vous voyez un peu, c'est les 4 secteurs clés que je pourrais citer. Il y a d'autres secteurs comme les énergies, comme vous le savez, l'Afrique côté énergie.
L'eau aussi, l'eau potable. La production de l'eau potable aussi.
Voilà, l'eau et l'énergie. C'est l'un des facteurs clés aussi qu'on doit s'appesantir avec nos partenaires. Si on parvenait réellement à travailler sur ces 5 facteurs, je pense que d'ici quelques années, on pourra réellement s'autosuffire sur plusieurs plans. Et on pourrait même apporter de l'assistance aux autres. Mais si nous ne nous engageons pas dans un partenariat stratégique dans ces 5 domaines, dites-vous que notre problème n'a pas encore commencé.
Eh bien, je vous remercie, M. Zoumana Seif Kone, pour cet entretien.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.
C'était Zoumana Seif Kone, directeur exécutif de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. partenaire de Radio Maliba FM. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.